VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 12 septembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. La Côte d'Ivoire dénonce une prise d'otage dans l'affaire de ses soldats détenus au Mali. Visite du président de la transition burkinabé, Paul-Henri Damiba, au Niger. Au Tchad, suspension de la convocation par la justice du leader de l'opposition, Succès Masra. En Éthiopie, les rebelles du Tigré prêts à des pourparlers menés par l'Union africaine. Au Royaume-Uni, dernier voyage d'Elisabeth II jusqu'à ses funérailles nationales à Londres. En Ukraine, Kiev annonce de nouvelles avancées et accuse Moscou de représailles sur le réseau électrique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La Côte d'Ivoire considère que ses 46 soldats détenus au Mali depuis 2 mois sont des otages. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP une source proche de la présidence ivoirienne qui met en garde les autorités maliennes tout en privilégiant une solution diplomatique, Claire Morin-Gibourg.
C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquences, a indiqué le responsable ivoirien. Il réagissait aux déclarations de la junte au pouvoir à Bamako, conditionnant la libération des 46 soldats à l'extradition de personnalités politiques maliennes vivant à Abidjan. « Notre position est claire, ce marché est inacceptable », a affirmé cette source. « Nous privilégions toujours la solution diplomatique. Il faut éviter la politique du pire », a-t-elle toutefois ajouté, espérant que la junte malienne reviendra sur sa position. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO doit se tenir cette semaine à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, selon cette même source, et devrait évoquer le sujet. Si d'ici là, rien ne se règle par la voie diplomatique, la CEDEAO sera bien obligée de prendre des sanctions, a-t-elle prédit. Samedi 3 septembre, 3 femmes sur les 49 soldats arrêtés le 10 juillet au Mali avaient été libérées. Un geste humanitaire de Bamako, qualifié alors de bon signe par Abidjan. Mais vendredi, le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a parlé de nécessaires contreparties, confirmant des informations selon lesquelles l'extradition de personnalités maliennes faisait partie de la discussion sur le sort des soldats ivoiriens.
Le chef de la transition au Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, était ce week-end à Niamey au Niger, après le Mali et la Côte d'Ivoire. L'inquiétante situation sécuritaire de la zone des trois frontières était au cœur des échanges qu'il a eus avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
À Niamey, les quelques heures de la visite du chef de la transition burkinabé lui ont permis notamment de rencontrer le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ancien président Issoufou Mahamadou. Les échanges ont porté sur le processus de transition en cours au Burkina Faso. Paul-Henri Sandaogo Damiba a quelques instants auparavant été reçu par le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel. Ici, c'est plutôt la question sécuritaire dans la zone dite des trois frontières, zone à laquelle appartiennent les deux pays, qui a dominé les échanges.
Nous avons rendu la visite au président nigérien pour examiner un peu les défis auxquels on fait face au niveau de nos zones frontalières, trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face.
Sur cette question, le Niger et le Burkina Faso ont une bonne coopération. Les deux pays ont récemment demandé au Mali beaucoup plus d'implication dans cette lutte. Au début du mois de septembre, les autorités nigériennes ont obtenu la libération d'une citoyenne américaine enlevée au Burkina Faso. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le chef de la junte en Guinée, Mamadou Doumbouya, est visé par une plainte déposée jeudi à Paris pour, je cite, « complicité de torture et d'homicide volontaire », selon l'AFP. Les plaignants sont le FNDC, une coalition d'opposition composée de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile et les familles de 3 personnes tuées par balle dans des manifestations anti-pouvoir et d'une décédée en détention entre fin juillet et mi-août. Les plaignants demandent à la procureure de Paris d'ouvrir une enquête. Au Tchad, les autorités ont annoncé dimanche la suspension par la justice de la convocation du leader de l'opposition, Succès Masra. Il avait été convoqué vendredi par le procureur de la République de N'Djamena après que plus de 200 de ses partisans ont été arrêtés, Mohamed Houmfa.
Le procureur de la République a annoncé qu'il suspendait jusqu'à nouvel ordre sa convocation, a déclaré dimanche sur Facebook Abderrahmane Koulamallah, porte-parole du gouvernement mis en place par le CMT, Conseil militaire de transition. Cette suspension a pour but de favoriser un climat de retenue afin de permettre un bon déroulement du dialogue national inclusif et souverain, a-t-il ajouté. Cette annonce intervient au moment où la communauté internationale s'émeut du sort des partisans de Succès Masra. Président des Transformateurs, l'un des plus virulents partis de l'opposition, il était convoqué vendredi, quelques jours après que plus de 200 de ses partisans ont été arrêtés dans des rassemblements violemment dispersés. Son domicile, qui est aussi le siège de son parti, avait alors été également encerclé par les forces de l'ordre. Dans un communiqué commun, l'Union européenne, l'Union africaine et plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont exprimé leurs préoccupations après les événements survenus vendredi ainsi que la semaine précédente autour du siège des Transformateurs.
En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont annoncé dimanche qu'ils étaient prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine et à respecter une cessation des hostilités immédiate et mutuellement acceptable afin de créer une atmosphère propice. Ils avaient jusqu'ici rejeté la médiation de l'émissaire spécial de l'UA, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, tandis qu'Addis Abeba insistait sur le rôle de l'organisation. Les combats ont repris il y a plus de 2 semaines entre ces rebelles et les forces fédérales d'Addis Abeba.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La reine Elisabeth II, dont le décès a été annoncé jeudi, a entamé son dernier voyage dimanche. Son cercueil a effectué un trajet de 300 km entre Balmoral, où elle est décédée, et Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Le film de cette première journée de rite funéraire avec Rosine Munezero.
Peu après 10 heures locales, soit 9 heures GMT, le corbillard royal, premier d'une procession de 7 véhicules, a franchi les grilles de la résidence de Balmoral, où la monarque aimait tant passer l'été. Son cercueil de chêne était recouvert de l'étendard royal écossais. À 14 heures, Charles III a de nouveau été proclamé roi lors de cérémonies au rituel immuable à Édimbourg, Cardiff et Belfast, capitale des 3 autres provinces constitutives du Royaume-Uni, après l'avoir été samedi à Londres. 21 coups de canon ont été tirés dans les 3 villes. Le parti républicain irlandais Sinn Féin, favorable à une réunification de l'Irlande du Nord avec la République d'Irlande, n'y a pas participé. Le cercueil royal est arrivé à Édimbourg, la capitale écossaise, peu avant 16h30, après un voyage de près de 300 km. 8 porteurs militaires, suivis notamment par la fille de la reine, la princesse Anne, et son mari, Tim Lawrence, ont amené la dépouille dans la salle du trône où elle a passé la nuit. Le cercueil sera transporté par avion mardi à Londres. Les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu le 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres, au lieu des mariages, couronnements et enterrements royaux depuis près d'un millénaire.
En Ukraine, une bonne partie de l'est du pays était privée d'électricité dimanche, pendant que Kiev disait gagner du terrain dans l'est et le sud, reprenant des territoires aux mains des séparatistes aidés par les soldats russes. L'Ukraine a revendiqué de nouveaux succès militaires contre les Russes dans l'est et le sud de son territoire, Moscou reconnaissant avoir perdu du terrain, tandis que la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, où tous les réacteurs sont désormais à l'arrêt, demeure préoccupante. La Minute Éco, Mohamedou Oumfa.
Au Sénégal, le déficit budgétaire sur les 7 premiers mois de l'année 2022 s'élève à 809,8 milliards de francs CFA contre un déficit de 862,8 milliards de francs CFA à la même période en 2021, selon les données officielles rapportées par sicatifinance.com. La meilleure tenue des ressources est à attribuer aux recettes fiscales notamment, qui ont augmenté de plus de 26%. Le président zambien Hakainde Hichilema a promis vendredi au Parlement un taux de croissance de 4% à moyen terme. Fin 2020, la Zambie était devenue le premier pays africain en défaut de paiement depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec une dette extérieure estimée à 17,3 milliards de dollars. Au début du mois, la Zambie a obtenu un prêt de 3 milliards de dollars du FMI pour relever l'économie du pays sinistrée par sa dette colossale. Un téléphone portable conçu et assemblé en Côte d'Ivoire est désormais disponible pour les personnes ne sachant ni lire ni écrire le français, langue officielle du pays. Équipé d'un système d'exploitation unique, le téléphone intelligent de Serco, qui coûte 60 000 francs CFA, intègre déjà 17 langues ivoiriennes comme le baoulé, le bété ou le diola et 50 autres langues du continent africain. Serco ambitionne d'inclure près de 1000 langues africaines à son fonctionnement.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, premier tour de qualification des interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, ça s'est bien passé pour les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa qui se sont imposés au Bénin face au Coton FC de Ouidah 2-1. Un bon résultat avant le match retour, mais pour Julien Chevalier, l'entraîneur du club d'Abidjan, il faut rester vigilant.
On est qu'à la mi-temps de cette confrontation et on a été bousculé, on a fait une bonne entame, mais l'égalisation rapide avec une situation litigieuse nous a peut-être fait douter et pendant une vingtaine de minutes, on a été très moyen. Après, on a réussi à retrouver nos bases en fin de première période déjà et en deuxième mi-temps, ça nous a permis de refaire la différence. Maintenant, c'était un premier match et on sent qu'on doit encore se roder. On a un effectif qui a beaucoup bougé et puis une préparation qui a été perturbée avec 10 joueurs absents pendant 15-20 jours. Donc il faut ramener tout le monde ensemble et retrouver la connexion. On a mis un petit peu de temps dans le match, mais finalement, on a retrouvé ça pour maîtriser la fin de match. Mais il faut rester vigilant.
Les Sénégalais de Casasport aussi doivent rester vigilants après leur coup succès 1-0 devant les Algériens de la JS Kabylie, tout comme les Éthiopiens de Saint-Georges 2-1 face aux Soudanais d'Al Hilal. Grosse performance en revanche des Angolais du Pétrole de Luanda, vainqueur 3-0 des Mozambicains de Black Bulls, même score en faveur des Nigériens de Rivers United aux prises avec les Libériens de Watanga.
Belle performance également des clubs tanzaniens, tous vainqueurs à l'extérieur.
Tout à fait. Simba 2-0 au Malawi face à Big Bullocks et Young Africans 4-0 sur les terres de Zalang au Soudan du Sud. Victoire étriquée 1-0 en revanche des Angolais du Primero do Agosto sur le terrain des Zambiens de Red Arrows. Ça cale par contre pour les Maliens de Djoliba et les Congolais de l'AS Otoo Doho battus 2-0 respectivement par les Équato-Guinéens de Deportivo Mongomo et les Sud-Africains de Cape Town. Mauvaise opération également de l'AS V-Club de Kinshasa qui s'est incliné 1-0 à Gaborone United. Et puis, tout reste encore ouvert entre les Togolais de l'ASCO de Kara et les Mauritaniens de FC Nouadhibou qui se sont neutralisés un but partout.
On jouait aussi le tour préliminaire aller qualificatif pour la Coupe CAF.
Oui, et ça s'est mal passé pour les Nigériens de l'AS Douane de Niamey lourdement battu 3-0 au Nigeria par Kwara United. Défaite également, mais à domicile des Béninois des Buffs du Borgou 1-0 face au Sierra Leone de Kalon FC. Tout est encore possible, par contre, pour les Ivoiriens de Gaoua après le nul 0-0 au Liberia face au LIRCR. De même pour les Nigériens de Remo Star, auteur d'un nul un partout au Maroc contre l'ASFAR. Les matchs retour se joueront en fin de semaine.
Football toujours, éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans, la zone UFOA-A livre ses représentants.
Et c'est à l'issue de son tournoi de qualification qui a eu lieu en Mauritanie. Et ce sera le Sénégal et la Gambie qui représenteront cette région de la zone UFOA. Les jeunes Sénégalais ont disposé facilement du pays hôte, la Mauritanie 4-1, pendant que ça a été plus difficile pour la Gambie qui a dû passer par les tirs au but 4-2 avant d'éliminer le Mali. L'Afrique de l'Ouest livre ainsi ses quatre représentants à la phase finale de cette CAN Junior qui aura lieu en Égypte, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et la Gambie.
Cyclisme à présent avec l'épilogue du Tour de Côte d'Ivoire, une victoire ivoirienne.
Souleymane Traoré, grand vainqueur de cette 28e édition courue en 8 étapes. L'Ivoirien champion de Côte d'Ivoire cette année devance au classement général le Burkinabé Paul Demont, tenant du titre pour réaliser le doublé. C'est un autre Ivoirien, Abou Sanogo, qui a remporté la dernière étape à Abidjan d'une distance de 110 km.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les députés nouvellement élus seront installés dans leurs fonctions ce matin. Cette 14e législature comporte deux faits inédits. L'équilibre à un siège près entre le pouvoir et l'opposition, mais surtout une forte présence des femmes qui représentent 44% du Parlement élu. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Une nouvelle fenêtre parlementaire s'ouvre au Sénégal et la majorité absolue du pouvoir ne tient qu'à une voix. Un équilibre loué par Modou Cissé, un acteur communautaire, pour lui, c'est une avancée démocratique certes, mais pas une garantie de changement.
L'équilibre parlementaire est une chose et la crédibilité du Parlement en est une autre. C'est une première au Sénégal et c'est quelque chose à magnifier pour notre démocratie. Mais est-ce que nos politiciens sont prêts à cet équilibre? On se pose toujours la question à savoir s'ils seront les députés du peuple ou de leur parti.
Un changement radical, c'est ce que Yamoussa attend de ses nouveaux députés. Pour lui, certaines errances ne peuvent plus être tolérées. Ce qu'il souhaite le plus actuellement, c'est avoir des députés qui soient là pour le peuple.
Le plus important, c'est de pouvoir représenter dignement le peuple à l'Assemblée nationale. On est député du peuple et non du parti. On ne peut plus accepter dans ce pays qu'on soit député et qu'on ignore réellement ce qu'on attend de ton rôle au sein de l'hémicycle.
Omar Mbow est élu plus pessimiste. Ce journaliste pense que la rupture prônée par les futurs députés risque de ne pas être au rendez-vous.
Pour moi, il n'y aura pas un grand changement. Il n'y aura pas un grand changement par rapport à cette 13e législature-là. À la 14e, je ne pense pas qu'elle soit différente de celle qui s'est terminée. Il y aura toujours ces tiraillements.
Sur les 165 députés élus le 31 juillet 2022, 73 sont des femmes, soit 44%. Une avancée saluée par Modou Cissé, qui espère que leur voix va peser dans cette nouvelle législature.
J'espère qu'elles seront beaucoup plus responsabilisées à la hauteur de leurs compétences et qu'elles joueront pleinement leur rôle de député, mais aussi de mère protectrice à l'égard du peuple sénégalais vis-à-vis des lois qu'elles voteront.
Pour beaucoup de Sénégalais et d'observateurs, la 14e législature sénégalaise sera un véritable test pour la démocratie. Un parlement assez équilibré qui pourrait influer sur les tendances politiques au moment où tous les regards se tournent déjà vers la présidentielle de 2024. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les Nigérians traversent des moments difficiles avec le coût de la vie qui continue de grimper. Le pouvoir d'achat diminue avec l'inflation qui a atteint 19,6% en juillet. La valeur du Naira se déprécie chaque jour, même si les agences de régulation disent qu'elles font tout leur possible pour stabiliser l'économie. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Gloria est mère de 3 enfants. Elle déplore la façon dont le coût de la vie a affecté son ménage ces derniers temps et a bouleversé le mode de vie de sa famille. Elle se rend tous les week-ends au grand marché de Garki à Abuja pour les provisions de la semaine. Pour elle, la situation actuelle devient intenable.
Ce qui se passe ces derniers jours sur le marché local est inexplicable. Les prix des aliments sont au-delà de nos imaginations. Les choses qu'on achetait avant à 2 000, aujourd'hui sont à 6 000. D'autres ont même atteint 10 000 naira. Donc je ne sais que faire. Regardez ce petit lot de condiments dans cette brouette coûte près de 20 000 naira. Avant, avec 10 000, vous pouviez acheter des choses et remplir la brouette.
C'est aussi difficile pour Okechi, mère d'un enfant. Elle est vendeuse d'ignam dans le même marché. Les prix des denrées ont tellement augmenté et cela affecte ses clients.
C'est cassé, non? Comme vous le voyez, d'habitude, on achetait des ignames comme ceux qui sont là, à 2000, mais aujourd'hui, c'est à 3000 ou 4000, parfois même jusqu'à 5000. Et vous ne pouvez rien, parce que si vous n'achetez pas, celui qui a l'argent viendra tout acheter. Et donc, tout ce que nous faisons est de s'arranger avec le peu que nous avons. Les gens me disent que les prix sont très élevés, mais je n'ai pas le choix.
Les Nigériens sont pris entre des prix qui grimpent pour les denrées de première nécessité et une monnaie dévalorisée. Pour le carburant comme pour de nombreux autres biens de consommation, le Nigeria dépend totalement des importations et donc du dollar américain, ce qui serait à l'origine de la crise actuelle, selon Uchenna Obidike, vendeur de riz, d'haricots et d'autres denrées alimentaires.
Je peux dire qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est à cause du taux d'échange du dollar. Vous savez aussi que la majorité des produits qu'on utilise au Nigeria sont importés et ils ont besoin des dollars pour acheter les matériels pour la production et aussi ce que nous produisons ici sur place. D'autres me demanderont pourquoi je parle du dollar, mais je crois que l'augmentation des prix est générale.
Les prix flambent dans tous les secteurs, l'énergie, les transports, mais aussi l'alimentation. Les travailleurs se plaignent que les revenus ne suffisent pas pour répondre aux exigences familiales comme l'alimentation, la santé, l'éducation et le logement. Baba Adna est un agent de sécurité dans une petite entreprise de la capitale Abuja.
Les gens qui ravitaillent nos marchés avec les commodités se plaignent selon nos informations. Ceux qui transportent les produits dans les marchés de la capitale ont des problèmes avec le prix du diesel. Avant, le diesel était vendu à 300 naira le litre. Maintenant, le litre coûte entre 800 et 900 naira à la pompe et 1000 naira dans le marché noir.
Les autorités affirment que l'inflation a bondi à près de 20% en juillet, le plus élevé depuis près de deux décennies. Les consommateurs de la plus grande économie d'Afrique ont du mal à joindre les débouts. Les économistes affirment que cette crise n'est pas seulement au Nigeria, mais qu'elle est mondiale et a été exacerbée par la guerre russo-ukrainienne. Et apparemment, le bout du tunnel n'est pas pour demain. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique.
Les Burundais n'ont pas été grandement étonnés par le limogeage d'Alain Guillaume Bunyoni, l'ancien Premier ministre en gouvernement restreint de 15 portefeuilles, dont 5 ministres entrants. Les véritables partis de l'opposition appellent le numéro 1 burundais à les inclure dans le nouveau gouvernement, comme le stipulent les accords de paix signés à Arusha en Tanzanie en 2000. Notre correspondant en Bujumbura, Christophe Kurunziza.
L'ancien ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, le lieutenant général de police Gervais Nirakobuja, devenu Premier ministre après le limogeage d'Alain Guillaume Bunyoni, a donné vendredi dernier les noms des ministres composant son cabinet, un gouvernement restreint de 15 personnes, dont 5 entrants. Parmi eux, 5 femmes. Certains Mick reste sceptique, pointant du doigt un jeu de chaises musicales pour ce jeune universitaire 26 ans qui étudie les sciences humaines. Le sortant et le nouveau Premier ministre appartiennent au même sérail des dieux du régime du Parti de l'Aigle aux commandes du pays depuis 17 ans.
Pour moi, ce nouveau Premier ministre est connu. C'est une personne qui met en exécution ce qu'il pense. Vous pouvez vous souvenir ce qu'il a fait en 2015 avec les manifestants. Vous avez vu qu'il n'a pas de pitié. Bon, va-t-il diriger comme ça avec ses ministres? On ne sait pas, on va voir. L'avenir nous dira s'il a changé pour le bien de la justice, des droits de l'homme, la fin de la misère, quelque soit des milieux de Burundais. Mais ce sont mes pensées. On va voir, l'avenir nous dira.
Pour bon nombre de Burundais du parti présidentiel, le nouveau gouvernement va appliquer le programme sociopolitique pour le développement du pays. Surtout que ceux qui agissaient à contre-courant ont été remerciés. Paul Sinzikayo est père de 3 enfants. Le moment est venu pour Evariste Ndayishimiye d'appliquer sa politique.
Le président veut que toute la bouche ait à manger, que chaque citoyen ait au moins 10 000 francs dans sa poche. Donne-lui le temps suffisant pour mettre en application sa politique au niveau social, agricole et le développement de notre pays.
À travers les témoignages de ces personnes rencontrées à Bujumbura, il y a des Burundais qui croient sincèrement au véritable changement et d'autres qui restent sceptiques et doutent. Qui des deux camps va prendre le dessus devant l'autre dans ce pays le plus pauvre de la planète, selon les institutions internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? Une question qui trouvera peut-être des réponses satisfaisantes pour les 5 prochaines années restantes du gouvernement du parti CNDD-FDD. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Rwanda, les habitants de Kigali se réjouissent de la connexion Internet gratuite qui se répand de plus en plus dans la capitale rwandaise. Ils indiquent qu'elle leur permet de faire des affaires et d'élargir les connaissances. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Une brise légère dans un jardin bien aménagé et doté d'une connexion Internet gratuite, à une vingtaine de mètres, devant le bureau de la ville de Kigali. Dans ce jardin, les bancs y sont installés et les gens viennent jouir de cette connexion. À majorité des jeunes, des étudiants, mais aussi des hommes ou femmes d'affaires. Ils sont unanimes à dire que cette connexion Internet gratuite ouverte au public est d'une grande importance.
Moi, je fais du marketing sur les réseaux. Régulièrement, je dois poster les produits sur mes comptes en guise de publicité. J'échange avec mes clients qui ont besoin de découvrir d'autres opportunités et moi, je réalise du bénéfice. En moyenne, grâce à cet Internet gratuit, je peux épargner 5000 francs par mois. C'est une chance exceptionnelle.
Moi, je suis étudiant. En venant ici, j'ai beaucoup aiguisé mes connaissances en Internet. Cette connexion gratuite est très intéressante, surtout que les jeunes n'ont pas souvent assez de moyens pour se procurer de l'Internet.
Moi, je viens ici 7 jours sur 7, sauf que les dimanches, je viens à 15h pour rentrer à 21h. Quand je passe 4 heures ici, j'épargne une somme que je devrais dépenser pour acheter de l'Internet. Quand j'ai beaucoup de travail qui nécessite une forte connexion Internet, je viens ici. Et surtout, les soirs, j'en profite pour respirer l'air frais de ces jardins.
Depuis plus de 2 ans, Kigali joue aussi des places interdites aux automobiles, mais réservées uniquement aux piétons. Ces places se trouvent au centre-ville, au quartier de Nyamirambo et de Remera. Ces places sont aussi équipées d'un Internet gratuit. Madame Solange Muhirwa, chargée de l'aménagement de la ville de Kigali, indique que l'objectif est d'étendre cette connexion à d'autres endroits.
Nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Technologie pour étendre cet Internet à d'autres endroits comme les gares routières et les stations d'arrêt bus. Nous pensons aussi aux divers marchés, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Nous prévoyons connecter aussi tous les stades de jeu.
Cette campagne de vulgarisation de la connexion Internet dans la ville de Kigali s'intègre dans une large vision du Rwanda d'accélérer l'utilisation de l'Internet dans le 3D service. D'après l'Institut national des statistiques au Rwanda, actuellement 89% des services délivrés par les organes étatiques sont obtenus en ligne. Jean Damascène Manchimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Avant de se séparer, cette nouvelle, bien, les États-Unis ont honoré dimanche la mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des pires attentats jamais connus le 11 septembre 2001. Qui ont changé le cours de l'histoire de l'Amérique selon le président Joe Biden. Monsieur Biden, la vice-présidente Kamala Harris et la première dame Jill Biden ont participé à des cérémonies qui ont eu lieu à New York où 2 avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda ont détruit les 2 tours du World Trade Center. au Pentagone près de Washington où un troisième avait éventré le Pentagone et à Shanksville en Pennsylvanie où un quatrième avion s'était écrasé dans une zone boisée après une contre-attaque des passagers. Aucune personne à bord des quatre avions n'a survécu. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.